Adelante. Par la porte de poil. C'est là, la porte de poil. C'est là, la porte de poil. C'est là, la porte de poil. Dès que Clément m'a passé tout ce passage, je me suis dit, tiens, mais c'est long, quoi. C'est-à-dire, tous les autres passages qu'on a étudiés au long de la semaine, c'était fou. Celui-là, en une demi-heure, comment je vais faire? Non, mais en fait, je comprends, et c'est un tout. Tout ce passage a une cohésion. C'est quatre petits messages qui vont tous ensemble. On va le voir. Le thème que Clément m'a donné, c'est la fidélité jusqu'à la fin. J'aime bien comme thème. Au début, je me disais, mais c'est un pléonasme. C'est redondant de dire fidèle jusqu'à la fin. Imaginez, vous êtes au jour de votre mariage, votre conjoint, vous devez être fidèle. C'est la définition même de la fidélité. C'est forcément jusqu'à la fin. C'est donc des tout temps que ça va être fait. Vous allez acheter un GPS. Le vendeur vous dit non, le GPS, je vous assure, il est fidèle. Hein, il est fidèle de temps en temps. Vous l'achetez pas. Super. Ce pont, il est super. Venez tout près du pont-là, vous pouvez le traverser. Il est 50% bien. De temps en temps, il tombe. Non, vous n'allez pas le. Du coup, bon, on sait que tu es fidèle, tu peux lui faire 100% confiance, mais ce passage est assez fort parce qu'en fait, il va parler de dire en gros, est-ce que Dieu peut faire confiance? Alors, pour être fidèle, premièrement, il faut être régénéré. Premièrement, il faut avoir quatre points pour être fidèle. Le premier point, c'est être régénéré. Verset 14, 13 à 14. Il est dit donc, entrez par la porte étroite. Jésus-Christ vous invite donc à prendre une décision. Et cette décision, très simple, il ne va pas par quatre chemins. Il y a la porte étroite, on a la vie. Il y a la porte large, il y a un chemin spacieux qui mène à la perdition. Ça veut dire. Déjà, la porte étroite, on se dit, c'est quoi cette porte étroite? Comment je peux y arriver? Luc 13, 24, déjà, nous dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Dans le efforcez-vous, et que beaucoup cherchent à entrer et ne peuvent pas, on voit que le fait que c'est étroit, ça symbolise la difficulté à y entrer. Deuxièmement, on s'est demandé, c'est quoi cette porte? En Jean chapitre 10, verset 9, Christ dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. D'accord? Là, c'est que Jésus-Christ, par son œuvre, par son salut, de grâce qu'il offre à la croix, fait prendre sur lui le châtiment de notre péché, de nous offrir tout simplement de nous sauver d'être loin de partir dans la perdition. Il nous amène vers la vie éternelle. Oui, mais c'est quoi ce chemin? Est-ce qu'après que Jésus nous sauve, il nous exige de gagner par les œuvres la confiance qu'il a mise en nous? Il a dit, bon, allez, je mise sur toi, je pense que t'es un bon cheval qui va arriver à la fin. Mais après, c'est nous de nous forcer. Ah oui, je vais vraiment, je vais pas décevoir Dieu. Non. Jésus nous dit en Jean 14, versets 2 à 6, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Vous voyez, c'est l'esprit du cœur. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. On lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et je lui dis, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient en Père que par moi. C'est ça, le message ici dans Jean, clairement que c'est Jésus qui va faire non seulement l'œuvre de nous sauver, mais aussi tout le cheminement de nous sauver jusqu'à la vie éternelle. D'accord. Alors pourquoi si Christ fait l'œuvre? Si Christ nous dit, prenez mon joug, il est doux. Pourquoi c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre dans nos vies? Pourquoi il est dit que c'est un chemin étroit et difficile? Pourquoi l'autre chemin il est facile et difficile en toi? En fait, l'autre chemin il est facile pour chair. Le chemin spacieux, en fait, laisse aller dans notre tendance pécheresse, et c'est possible. Et le chemin que Christ nous propose, c'est un chemin qui est difficile au niveau. La chair, elle va être à l'étroit, elle va pas pouvoir faire ce qu'elle veut. Notre volonté, on va la laisser en main de Dieu, on va faire la volonté de Dieu, vivre sa volonté. Et notre chair va être crucifiée, c'est Christ qui va défendre. Ça, c'est mettre nos tendances pécheresses à l'étroit. Mais il y a autre chose en fait, il y a notre orgueil aussi. Pourquoi c'est dur de passer par cette porte du salut? C'est parce que Christ est en train de présenter un salut par grâce qu'on ne peut pas mériter par nos œuvres. Et ça dérange notre orgueil. Dans notre orgueil, on veut gagner le ciel, on veut mériter le ciel. Et c'est très très étroit de vouloir devenir un. Donc, en résumé, pour cette première partie, pour être fidèle, pour rester dans ce chemin, après avoir passé par la porte, il faut être régénéré. Si vous êtes régénéré, vous êtes. Et en fait, c'est tout simple pour être fidèle en fait, c'est tout simplement faire confiance à la fidélité de Dieu dans nos vies. Et là, Christ, il est tout juste trop fort, il sait déjà quelles sont les objections qui vont naître dans nos pensées. Quelle est la première objection à laquelle on pense lorsqu'on écoute ce premier message? On dit, bah alors c'est bon, moi je suis chrétien, j'ai la foi, donc je suis sauvé. Alors, c'est la fête. Merci Jésus. Là, Jésus, il va plus loin. Dans le verset, dans la deuxième partie, on voit que pour être fidèle, il faut être cohérent. Que nos actes soient cohérents avec notre foi. Alors, il est dit, méfiez-vous des prétendus prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, et au-dedans, ce sont des loups voraces. Il est en train de dire qu'il y a des gens qui se présentent comme des chrétiens, des gens qui se présentent comme, oui, moi je suis passé par la porte étroite, mais est-ce qu'ils sont dans le chemin? Jésus, il n'est pas en train de dire c'est possible de rentrer par la porte étroite et vous retrouver dans le chemin spacieux. Non. Vous ne pouvez pas avoir, vous pouvez être régénéré et après pratiquer l'iniquité, pratiquer le mal. C'est pour ça qu'il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit des bons fruits et le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Tous ceux qui ont vraiment la foi, ils ont aussi les œuvres qui vont avec, les bonnes œuvres auxquelles Dieu nous a prédestinés. Alors faut pas qu'on se trompe. Faut pas qu'on tombe sous l'illusion de c'est bon, j'ai la foi, je suis chrétien, j'ai fait la prière, je suis baptisé, je vais tous les jours à l'église, c'est bon, je suis un bon fidèle. Est-ce qu'on a les œuvres? Est-ce que tout simplement on sent comment le Saint-Esprit nous rend chaque fois plus semblable à Christ? De façon pratique, de façon concrète, qu'on arrête de se dire, oui, j'ai une bonne doctrine, c'est bon. Il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir une super doctrine, mais avoir de mauvais fruits. Je donne deux exemples. Matthieu 23, verset 2 à 3, les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. C'est Moïse qui parle aux gens. Toutes les choses donc qu'ils vous diront, faites-les et observez-les, mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. On peut être en train de, ici même, je pense que c'est possible que vous ne soyez pas vraiment. Ici même, vous pouvez être en train de sortir, évangéliser les gens, et dans votre cœur, vous n'avez pas été transformé. Il y a Billy Graham qui a fait une conférence de pasteur, il a invité à la fin, il a dit, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, venez, il y a des pasteurs qui se sont levés, vous n'avez jamais reçu Christ. C'est possible. Alors, pour avoir cette ça à l'esprit, tu n'as pas leader, c'est parce qu'on n'a pas été résumé. Philippiens, deuxième exemple, Philippiens 1, 15 à 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent le Christ aussi par envie et par un esprit de dispute. À l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Mais quelques-uns aussi de bonne volonté. Ceux-ci par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile. Ceux-là annoncent le Christ par esprit de parti, non pas purement, croyant susciter de la tribulation pour le lien. En train de prêcher Christ, je ne veux pas être chrétien. On peut se dire, j'ai une foi cool parce que j'ai une doctrine énorme et je suis même en train de l'enseigner. Là. Déjà, ce passage, je ne vais pas extrapoler trop, ce passage nous invite d'abord à examiner les faux docteurs. Et je pense qu'on est aussi invité à examiner les faux docteurs en nous. Parce qu'en nous, il y a des faux docteurs. Il y a des parties de notre vie dans lesquelles on dit c'est bon, je la vois, mais on voit clairement qu'on n'a pas les œuvres. Alors là, troisième partie, répond à une autre objection. Là, on n'est pas en train de dire c'est bon, Dieu, j'ai la foi, on va dire l'inverse. C'est bon, j'ai les œuvres. Donc, si j'ai les œuvres, qu'est-ce que ça peut faire? Ben, tu viens de le dire, bon arbre, bon fruit, donc j'ai les fruits. Troisième partie, pour être fidèle, il faut être connu de Christ. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Là, les gens qui peuvent faire la volonté de Dieu, disent, ces gens-là que Dieu présente ici, ils disent « C'est bon ». Pourquoi? Parce qu'ils disent « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Et en plus, en ton nom Jésus. Dans une bonne doctrine, c'est-à-dire que Jésus est Dieu. On les choses en son nom. En ce jour-là, Christ est en train de parler du jour du jugement, ils savent très bien que Christ est juste et que c'est lui Dieu et qu'il va les juger. Ils disent, on a prophétisé en ton nom, on était chrétien, on a présenté, on a chassé des démons, en ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? On fait des œuvres considérées comme des plus grandes œuvres. Des pasteurs, évangélistes, missionnaires, j'ai même guéri des gens lorsque je priais, et tout en Christ, je l'ai senti. Alors, tu dois me séparer. Là, c'est comme ça. Même les œuvres chrétiennes ne peuvent pas gagner le ciel. C'est tout, hein? Pas parce que vous faites la loi, pas parce que vous obéissez à la loi que Dieu a clairement expliqué, vous êtes en train d'obéir à Dieu. Pourquoi? Parce que déjà vous pouvez le faire dans de mauvaises intentions. On a présenté cela. Vous pouvez le faire par orgueil, par égocentrisme, par vanité, par peur de l'enfer, pas par amour, pas dans le cadre d'une relation personnelle avec Dieu. Et c'est ça ce que Jésus leur dit. Il leur dit: je ne vous ai jamais connu. Christ, c'est un mission. Pas de. Non, je ne savais même pas que vous existiez. Non. Je ne vous ai jamais connu dans le cadre d'une relation personnelle. Retirez-vous de moi pour rencontrer des choses qu'on considère bonnes sans que Dieu nous les ait demandées. Elles cessent d'être bonnes. Rencontrez des choses au Dieu. Tu as tout fini de nous dire nous ce qu'il fait, bien nous le vouloir pour le faire, bien nous le faire faire un jour. C'est faux, c'est. Comment dire? Moi, ça m'a énormément marqué parce que j'en parlais à Michael, je disais, et je vois que d'un côté, il y a les catholiques qui font plein d'œuvres bonnes. Et ils vont se retrouver comme ça devant le Seigneur et dire: on a fait plein de lycées, on a institué le secours populaire. Si vraiment je ne partais dans ta relation personnelle avec Jésus, c'est un homme terrible. Je suis pas en train de dire, je vais aller juste que même. Ceux qui aiment les yeux, une personne très bonne. S'il a fait tout ça sans la relation avec Christ, il a fait pour de mauvaises raisons. Ça peut être par vanité, ça peut être par envie de justifier. Ça peut être aussi tout simplement, comment dire, des personnes qui disent Seigneur, Seigneur, peut-être des personnes qui ont été tristement dans une nouvelle doctrine et qui n'ont pas vraiment cherché à connaître Christ, à développer leur relation avec eux, et tout de suite, bon, c'est mon Seigneur. Oui, je pense qu'on a envie de croire plus vite. Je pense énormément que je tombe dans la terre. Je prie pour cette chose. Non, Christ. Mon Dieu, je suis trop occupé à te servir pour te parler. C'est tellement qu'on pense qu'on est en train de servir pour te dire. C'est pourquoi en fait ça. La vie éternelle, c'est partager une relation d'amour. C'est ça. On veut développer une relation, on veut avoir une relation parfaite avec lui, on l'aime tellement qu'on veut être avec lui éternellement. Si on le veut tellement, au point de le désirer pour l'éternité, pourquoi on ne peut pas le faire? Développons cette relation avec Jésus-Christ. Et ainsi nous pourrons être fidèles, parce que c'est dans le cadre de cette relation que lui pourra vraiment nous guider vers sa volonté, vers les bonnes œuvres qu'il veut faire pour nous. Conclusion, quatrième partie, pour être fidèle, il faut être fondé sur Christ. verset 24 à 27, qui compte donc, il y a un lien en fait entre tout ce qu'il a dit et ça, qui compte donc entend ces miennes paroles et les mets en pratique. Comme vous voyez, ça revient toujours à la même chose. Il y a la porte étroite qui mène au chemin. Il y a les bons arbres qui produisent des bons fruits. Il y a la relation personnelle avec Jésus-Christ qui nous amène à faire la volonté du Père. Et dans la quatrième partie, on voit que c'est entendre les paroles de Dieu et les mettre en pratique. La foi et les œuvres vont ensemble. Et je dis, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, ont donné contre cette maison, et n'est pas tombée, car elle avait été fondée sur le roc. Et quiconque entend ces mêmes paroles et ne les met pas en pratique, donc c'est possible que vous soyez en train d'entendre ces paroles-là tous les dimanches, tous les jours même, et que vous ne les mettiez pas en pratique. C'est possible. Vous pouvez même comprendre, avoir une doctrine excellente, être même des théologiens, et ne pas être en train de mettre en pratique ce que Christ dit. Sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable, et la pluie est tombée, et les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu sa maison. Et est tombé. Sachez que vous êtes tombé. Christ n'est pas en train de nous dire la vie chrétienne va être facile. La pluie tombera sur tout le monde. Vous êtes prêts à attaquer vos enfants. Qui ici a une vie facile? Levez la main. La vie, elle est facile. Elle est trop cool. Une vie. Le croyant ou non croyant est difficile. La différence, c'est que les croyants se font bien. Et même si vous voyez un chrétien qui tombe dans la pauvreté, il est malade, il est souffrant, il est abandonné, il est seul, il est dans un naufrage, il est fouetté, il est condamné à la prison, comme plusieurs apôtres, missionnaires, évangélistes. Eh bien, la théorie de la prospérité, elle, qu'est-ce qu'elle a à dire sur ça? Elle a à dire, ben, il manque de foi. Probablement pour lui manquer beaucoup de foi, alors parce qu'il y avait besoin. Non, c'est pas ça. La foi lui a permis de tenir dans l'épreuve. Spirituellement, il était toujours heureux. Spirituellement, il est toujours dans la paix. Spirituellement, il était fondé sur le roc. Ce qui faisait que, pour lui, toutes ces épreuves ne l'ébranlaient pas. Il était vraiment, vraiment attaqué de toutes parts. Mais ça, c'est seulement possible parce qu'on est fondé sur Christ. Lorsqu'on a une relation personnelle avec lui, lorsqu'on développe cette relation qui fait que Christ, en fait, peut être vraiment la pierre angulaire sur laquelle on fonde toute notre vie. Ça peut dire, en fait, c'est une suite de choix. Pourquoi on pêche, pourquoi on désobéit Dieu, pourquoi on tombe dans la tentation de penser, en fait c'est très simple. À chaque fois, de quoi être sacrifié oui. Ce n'est pas chercher de recevoir dans la vie ou dans la communauté de la gloire de la gloire de la vie. Et il y a une différence dans le monde de la vie. Donc, Et c'est là où en fait on peut être fidèle. Peut être fidèle parce que déjà Christ nous a pardonné nos infidélités et il va même nous pardonner prochaines infidélités au point que dans notre casier judiciaire il n'apparaîtra pas l'infidélité. C'est comme si on avait été toujours fidèle. Et ça, d'être aux yeux de Dieu, on est toujours plus fidèle. Et à toutes les infidélités, on est toujours facile. Ça, c'est essentiel parce que. J'ai menti plusieurs fois à mon épouse. Elle m'a dit comment je peux te faire confiance. Si j'ai menti une seule fois, je suis plus fiable parce que après, même si j'ai 99% du temps que j'ai dit la vérité, je peux être vraiment sûr. Comment je peux te faire confiance? Moi je vous dis, bon, tenez cette voiture, elle fonctionne 99% du temps. Il voit pas, il voit pas nos infinités, il voit 100%. Pour lui, vous êtes fiable parce que Christ vous a donné son casier judiciaire. Christ vous a donné sa fiabilité. Vous êtes fiable parce que Dieu fait confiance en Christ et son Saint-Esprit qui agit. Dites-vous déjà que Dieu ne va pas vous laisser tomber pour une infidélité. Il y a des accidents, des choses. Si vous repentez, Dieu vous pardonne. Par contre, ce que Dieu, malheureusement, ne va pas pouvoir je vous invite à voir que cette porte étroite elle est grande. Un message d'espoir. Lorsqu'on lit ce message, lorsqu'on lit ce passage, on est quand même bouleversé. Et je veux vous dire que c'est un message d'espoir. La porte est étroite et elle est grande. Donc ce chemin resserré vous serait étroitement pris. Désirer, c'est ce qu'on a, dont on a vraiment besoin. Le chemin étroit de la sanctification est la seule voie pour ceux qui sont rentrés par la porte de grâce, accepter en fait que la fidélité du chrétien dépend de la fidélité de Dieu. Merci notre Dieu pour...